La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le texte de base de cette présentation se trouve en Apocalypse 18, versets 1 à 4. Mais en réalité, il y a deux textes de base. Car nous allons considérer également Apocalypse 14, verset 8. Et j'aimerais tout d'abord que nous considérions le message du deuxième ange. Et nous allons ensuite considérer celui de l'autre ange d'Apocalypse 18. Apocalypse 14, verset 8. Et je pense que nous connaissons ce verset, où il est dit « Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Nous voyons ce message répété et amplifié en Apocalypse 18, texte de base de ce committee, comme suit. Après cela, Apocalypse 18, verset 1, « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix et dit, « elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Durant cette présentation, nous allons nous intéresser à la chute de Babylone. Et avant de considérer cela, j'aimerais que nous puissions clarifier un point concernant Babylone. De manière historique, très précisément, car cette présentation sera axée du point de vue historique, l'histoire de ce message et de ces messages. Et de quelle Babylone parlons-nous ici? Comme nous l'avons vu avec le pasteur Alan Stump, depuis la chute de la Babylone littérale, Satan n'a pas cessé de chercher à dominer le monde à travers les empires mondiaux qui lui succédèrent. Et nous savons qu'après que Babylone soit tombée, c'est l'empire médo-persan qui a régné sur la scène mondiale, à la suite de cela, l'empire grec et finalement l'empire romain. Et ce, quand nous considérons la statue de Daniel 2, bien qu'il y a effectivement d'autres empires divisés, un empire divisé, un royaume divisé qui succède à l'Empire romain. Considérons ensemble maintenant 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 13. Où allons-nous? C'est exact. Et un Pierre 5, verset 13, où nous lisons là que la communauté des élus qui est à Babylone, et Marc, mon fils, vous salue. La Babylone littérale était déjà en ruine au 1er siècle, époque à laquelle Pierre écrivit cela. À cette époque-là, les Juifs étaient sous la domination de quel empire? De l'empire romain, c'est exact. Et voyez-vous, les chrétiens étaient persécutés par ce même pouvoir. En fait, nous savons que les premiers chrétiens utilisaient le terme Babylone tel un nom codé pour faire référence à la capitale de l'Empire, et ce afin d'éviter les représailles politiques. Et la plupart des commentateurs s'accordent sur ce point, voyez-vous. Ainsi, Paul emploie lui aussi ce terme pour faire référence à la capitale de l'Empire. Mais est-ce à dire pour autant que la Babylone dont on nous parle en Apocalypse est un empire? Est l'empire romain ou un autre empire? Voyez-vous, de manière à bien identifier du point de vue historique, la Babylone d'Apocalypse 14, 8, mais aussi celle dont on va nous parler en Apocalypse 18, nous devons comprendre que sous la Nouvelle Alliance, le conflit se porte entre l'Israël de Dieu et la Babylone, d'accord, mystique. Et ce conflit ne repose sur aucune distinction ethnique ou géographique. Car voyez-vous, sous la Nouvelle Alliance, l'Israël de Dieu n'est pas une ethnie, mais un peuple qui a la foi de Jésus, d'accord? Car l'Israël de Dieu est son Église, tous ceux qui embrassent la foi de Jésus. Et en Apocalypse 17, versets 1 à 5, il nous est dit, « Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sous les grosses eaux avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème et ayant sept têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone, la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. » Ici, nous avons une représentation symbolique de Babylone et où on nous la présente comme étant une grande prostituée. Et ce langage fait écho aux prophètes de l'Ancien Testament. En effet, les prophètes d'Israël ont à plusieurs reprises décrit le peuple de l'Alliance comme étant l'épouse devenue la grande prostituée. En effet, en Ésaïe 1, verset 21, « Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée ? Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle, et maintenant des meurtriers. » Et encore, Jérémie 3, verset 1 à 3 et 8 et 9, « L'Éternel a dit, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'elle le quitte et se joigne à un autre homme, retournera-t-il encore vers elle ? Le pays même n'en sera-t-il pas vraiment souillé ? Or toi, tu t'es prostituée à plusieurs amants. » Reviens à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme un arabe au désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta malice. Aussi, les pluies ont-elles été retenues, et il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison. Et tu as eu le front d'une femme débauchée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Verset 8 et 9. Et j'ai vu que, quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, cependant sa sœur, Juda, la perfide, n'en a point eu de crainte. Mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée par le bruit de sa prostitution. Alors, point. Par le bruit de sa prostitution, elle a souillé le pays, elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Et il y a encore d'autres références qui montrent que les prophètes d'Israël parlaient de la sorte du peuple lorsqu'ils commettaient idolâtrie, Ézéchiel 16, 15 à 34 et Osée 2, versets 2 et 4. Et Jean lui-même, voyez-vous, en Apocalypse 2, fait référence à une femme, comme sous le nom de Jézabel, d'accord? Et en faisant référence, en citant Jézabel, son exemple, lui aussi fait référence à la Babylone spirituelle comme étant une mère prostituée et meurtrière, d'après ce que l'on lit en Apocalypse 2, versets 20 à 23, et aussi du verset 3 à 6. Et voyez-vous, lorsque l'Apocalypse nous parle de la sorte, nous avons là une antithèse de la femme qui nous est présentée en Apocalypse 12. La femme dont les enfants sont persécutés. Ainsi, en Apocalypse, Babylone, lorsque nous considérons du point de vue historique, est associée à une église infidèle et déchue plutôt qu'à un empire. D'accord? Et en nous rappelant ce que nous avons lu en Apocalypse 17, versets 1 et 2, nous voyons qu'il s'agit d'une église qui est associée au pouvoir civil, car on nous parle qu'elle a des relations avec les rois de la terre. Et ainsi, tout comme la Babylone historique qui envahit la terre d'Israël, amena son peuple en captivité et détruisit son temple, de même, la Babylone spirituelle est celle qui attaque et asservit l'Église du Christ et blasphème le temple de la Nouvelle Alliance. Et de manière intéressante, la puissance qui correspond à ces caractéristiques est la petite corne du livre de Daniel, laquelle est présentée par Jean sous le symbole d'une bête montant de la mer en Apocalypse 13, verset 1. Et lorsque nous considérons cette description, nous voyons qu'il ne s'agit pas de la Rome impériale, mais en réalité de sa métamorphose ou de sa transformation, c'est-à-dire de la Rome papale en fait. Okay? Et de ce fait, nous comprenons que, comme nous l'avons dit de manière esquissée hier et ce matin, il est évident que la femme d'Apocalypse 17 représente l'Église de Rome, la mère des prostituées. Mais est-ce que, et c'est là la question que je souhaiterais, la première question que je souhaiterais que l'on se pose, est-ce qu'il s'agit de l'Église catholique romaine à laquelle on se réfère en Apocalypse 14, verset 8, sous le message du deuxième ange? Nous l'avons dit précédemment. La réponse. Alors, on dit Apocalypse 17, oui. Mes amis, ces messages, le triple message, qui ont commencé à être proclamés du point de vue historique au début du 19e siècle, d'accord, eh bien, à ce moment-là, l'Église de Rome était déjà infidèle. Était déjà infidèle et déchue bien avant le 19e siècle. Donc, nous faisons référence ici, eh bien, à ses filles, comme il nous l'est dit, la mère des prostituées, les églises qui ont suivi sa conduite, d'accord? Les églises dites protestantes qui ont en fait cessé de protester et qui ont suivi en fait l'exemple de la grande Babylone. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Simplement parce qu'elles ont refusé le message du premier ange. Le premier ange appelle le monde à craindre Dieu, à lui donner gloire et à l'adorer comme étant le créateur du ciel et de la terre. Le troisième ange, quant à lui, met en garde contre l'adoration de la bête et de son image et contre la réception de sa marque. Et ces deux messages, de manière directe pour l'un et d'une manière indirecte pour le troisième, eh bien, nous appellent à l'action. Mais contrairement au premier et au troisième, le deuxième ange, le message du deuxième ange, n'appelle pas à l'action. D'accord? Il est simplement une déclaration de fait. Babylone est tombée. Mais alors, pourquoi, du point de vue historique, étant donné que ce n'est qu'une déclaration de fait, pourquoi les croyants ont-ils agi? C'est là la deuxième question que je voudrais qu'on se pose en ce matin. Pourquoi ce message, qui ne fait que déclarer quelque chose, a conduit les croyants à agir? Du point de vue historique, ce message fut premièrement prêché par les adventistes millérites durant l'été de 1844 et il fut appliqué aux églises protestantes qui rejetèrent le message du premier ange concernant le jugement, lequel est la raison pour laquelle les hommes doivent craindre Dieu et lui donner gloire. En d'autres termes, la prédication du jugement investigatif est une composante de l'évangile éternel. Et ceux qui ont prêché ce message pour la première fois lui ont toujours associé les paroles du verset 4 d'Apocalypse 18, à savoir « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Et à ce propos, considérons le témoignage du pasteur James White. Dans l'ouvrage « Le message du troisième ange », pages 9 et 8, édité par la Voix vivante, nous lisons « Le premier message était d'abord destiné aux églises, mais rapidement, leurs journaux religieux refusèrent de le publier et leurs maisons d'adoration, lui, fermèrent leurs portes. En agissant ainsi, elles chassèrent la bonne nouvelle éternelle du royaume de Dieu. Et lorsque cela fut accompli, Jésus, ainsi que l'Esprit de vérité, les laissa pour toujours, et les églises, Babylone, tombèrent. Dans toutes ces églises, seules quelques âmes vivantes avaient accepté le message de l'avènement. Celles dont le manger et le boire, dont la vie même était de parler du retour de Jésus, ainsi que de la restitution. Mais il ne leur fut pas permis de rendre témoignage. C'est alors que la voie fut préparée pour le deuxième message. Elle est tombée, Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Chaque croyant en l'avènement sait que nous avons entendu ce message. Nous n'avons pas oublié les excellents sermons qui ont été prêchés et publiés sur ce sujet par l'ancien Joseph March et plusieurs autres. Nous n'avons pas non plus oublié l'effet que ce message eut sur le peuple de Dieu, car ce dernier lui obéit et se dépêcha de quitter les églises. Qu'il s'agisse de l'époque ou de l'endroit, cette prophétie s'est parfaitement accomplie. Certains nous disent que Babylone ici est l'église catholique romaine, mais le peuple de Dieu n'était pas dans cette église. Le premier message était destiné aux églises, à partir des environs de 1840 jusqu'en 1843. Puis, un deuxième ange le suivit. Par conséquent, le message « Elle est tombée, Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple » fut annoncé en 1844. Nous l'entendîmes de nos propres oreilles. Nos voix le proclamèrent. Nos êtres entiers sentirent sa puissance. Et de nos yeux, nous vîmes son effet. Aussi, le peuple de Dieu qui était oppressé rompit les liens qui les maintenaient dans les différentes sectes et il s'échappa de Babylone. Remarquez comment Pasteur White, ici, nous parle du message et qu'il associe Apocalypse 14, 8 au verset 4 d'Apocalypse 18. C'est-à-dire, elle est tombée et sortée. À cette époque-là, il y avait la compréhension que du moment que Babylone est tombée, il fallait sortir. Alors, je vous repose la question. Pourquoi la chute de la Babylone spirituelle en 1844 impliqua-t-elle le fait d'en sortir? Étant donné que le message que Dieu envoie n'est qu'une déclaration de fait. Notez que la chute morale n'est pas la destruction. Je répète, notez que la chute morale n'est pas la destruction, mais la sentence. Or, la sentence de la Babylone historique fut rendue avant sa destruction. Comme nous pouvons le lire en Daniel, chapitre 5, du verset 22 au verset 31. Où allons-nous? C'est exact. Daniel 5, verset 22 à 31. Et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses, mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté les vases de sa maison devant toi, et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voies. C'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de main et que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel ufartsin. C'est-à-dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'interprétation de ces paroles. Mene, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. Dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. La main qui écrivit sur le mur du palais la sentence de la Babylone historique est le type du deuxième ange annonçant la sentence de la Babylone spirituelle. Et tout comme la sentence de la Babylone historique fut rendue avant sa destruction, de même, la sentence de la Babylone spirituelle sera rendue avant sa destruction qui aura lieu sous la septième plaie, tel que nous pouvons le lire en Apocalypse 16, versets 17 à 21, 18, 20 et 19, 2. Mes amis, je désire vous poser une question. Sommes-nous prêts à rester dans un endroit déclaré par le ciel comme étant corrompu? Voyez-vous, ceux qui ont premièrement accepté le message du premier ange, eux n'ont pas pu le faire. Et cela devient plus clair quand on considère la raison pour laquelle Babylone est tombée. Ah, dans le message du deuxième ange, en Apocalypse 14, 8, il nous est dit « car elle a abreuvé ». D'accord? Et le terme qui est traduit par abreuvé vient du grec potizo, ok, tel que nous pouvons le voir ici, d'accord, parce qu'elle a abreuvé potizo. Et ce terme grec lui-même provient d'une racine qui est pino, ok, et cette racine pino que l'on retrouve dans le message du quatrième ange lorsqu'il nous est dit qu'ils ont bu en fait, d'accord. Donc il y a un rapport étroit ici. Mais maintenant, nous allons considérer l'emploi de potizo. Remarquez 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2, où l'apôtre Paul déclare « Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, potizo, et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. » Quel est ce lait que l'apôtre donna aux Corinthiens à boire? L'Évangile. Alors, ce qu'a précisément en Hébreux 5, versets 11 à 14, il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu. Et lisons cela en Hébreux 5, versets 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14. Au sujet, donc, Melchisédek, au sujet de qui nous avons beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenu lent à comprendre. En effet, tandis que vous deviez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Et comparons cela avec ce que nous lisons en 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Où allons-nous? 1 Pierre 1, verset 25, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Car nous savons que lorsque les Écritures ont originellement été écrites, il n'y avait pas de verset, d'accord? Et cela se suit en fait. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Ayant donc renoncé, et le « donc » justifie cette lecture que nous faisons, ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraudes, de dissimulations, d'envie et de médisance, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel est pur afin que vous croissiez par son moyen. Ainsi, le vin de Babylone, mes amis, est son enseignement religieux corrompu. Ses fausses doctrines, ses faux enseignements. Et durant la première partie de cette présentation, nous avons vu que le message du deuxième ange est en fait la réponse de Dieu, la réponse que Dieu apporte à ceux qui rejettent le message du premier ange. Et que ce message a, historiquement parlant, été adressé aux églises protestantes au début du 19e siècle. En d'autres termes, Dieu considéra ces églises comme étant moralement tombées, car elles refusèrent de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer comme étant le Créateur. Et de quoi cela est-il un rejet? Apocalypse 14, 6. Comment le message de l'ange est-il décrit en deux mots? Le message du premier ange, comment est-il décrit en deux mots? Il s'agit de l'évangile temporel? De l'évangile éternel, mes amis. De l'évangile éternel. Ainsi, ce message concernant la chute de Babylone, qui enivre les nations, trouve son accomplissement dans le fait que les églises protestantes s'éloignèrent de la pureté et de la simplicité de l'évangile. Et lorsque l'on accepte l'évangile éternel, mes amis, on ne peut pas, si l'on se préoccupe véritablement de son salut et que l'on aime la vérité présente, eh bien, on ne peut pas demeurer dans des églises où ce dernier est non seulement rejeté, mais également combattu. Et en parlant des 144 000, Jean déclara ce que nous lisons en Apocalypse 14, verset 4. Où allons-nous? OK, lisons cela ensemble. Et là, on nous dit, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Le terme qui, ici, dans ce verset, est traduit par « souillé » vient du grec « molino », comme affiché à l'écran. Et ce terme grec « molino » n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament. Une fois en Apocalypse 14, verset 4, que nous venons de lire. Une fois en Apocalypse 3, verset 4, où il est dit « Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé, molino, leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. » Et une fois en 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais nous allons, car cela est intéressant pour nous, lire à partir du verset 6. Et faites bien attention à cette lecture. Lisons 1 Corinthiens 8, 6 et 7. « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée à l'idole, et leur conscience étant faible, en est souillée. » Molino. Ici, l'apôtre Paul déclare que ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ finissent par avoir une conscience souillée. Mes amis, se souiller avec les femmes prophétiques, c'est-à-dire perdre la connaissance de Dieu et de Jésus en raison des faux enseignements des églises déchues, est la dernière chose à faire si l'on souhaite faire partie des 144 000. Et c'est pour cela que ceux qui ont premièrement annoncé le message du premier ange, sont sortis des églises de Babylone en 1844. Et cela se vérifie même dans leurs croyances fondamentales. En effet, dans la version de 1889, ils croyaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Psaume 139, verset 7. Mais concernant Jésus, le deuxième point disait qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, celui par qui il créa toutes choses et par qui elles subsistent, qu'il prit sur lui la nature de la semence d'Abraham pour la rédemption de notre race déchue. Voilà ce que croyaient ceux qui ont accepté le message du premier ange et qui, de ce fait, n'étaient pas concernés par le message du deuxième ange. C'est-à-dire, parce que oui, vous avez bien compris, lorsque vous avez accepté le message du premier ange, vous n'êtes pas concerné par le message du deuxième ange, puisque le message du deuxième ange, c'est la réponse à ceux qui ont rejeté le message du premier ange. Okay? Et voilà ce que croyaient mes amis. Ce que croyaient ceux qui n'étaient pas concernés par le message du deuxième ange. Voilà dans quoi Dieu les a conduits. D'accord? Mais plus tard, il semble que la conscience ait été souillée. En effet, car dans la croyance fondamentale numéro 2, eh bien, la connaissance de Dieu a été perdue, car on nous parle maintenant de la Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes co-éternelles. N'a rien à voir avec ce que croyaient ceux qui n'avaient pas la conscience souillée et qui ont accepté le message du premier ange. En effet, car l'un de ces pionniers, dans The Three Angels of Revelation 14, versets 8 à 12, à la page 54, eh bien, déclara cette prostituée, en raison de son union illicite avec les puissances de la terre, a corrompu les pures vérités de la Bible et a intoxiqué les nations par le vin de sa fausse doctrine. Quelques exemples de sa corruption des vérités de la Bible devraient suffire. Il cite un point et il va citer un deuxième point. Et il y en a encore d'autres qui suivent, mais on va juste considérer le deuxième point qu'il cite. D'accord? J.N. Andrews. Et il va dire, la doctrine de la Trinité établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, lesquelles apparaissent sur les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Voilà ce que pouvait écrire un homme qui, historiquement parlant, avait accepté le message du premier ange et de ce fait n'était pas concerné par celui du deuxième. La caractéristique des églises qui sont tombées en 1844 est qu'elles rejetèrent le message du jugement, qui est la raison pour laquelle il faut craindre Dieu et lui donner gloire. Or, le jugement n'est qu'une face ou est l'autre aspect de l'œuvre du Christ, dont l'autre face est la purification du sanctuaire. Autrement dit, rejeter la purification du sanctuaire revient à rejeter également le message du premier ange. Vous avez compris cela? Vous avez l'œuvre du Christ dans le ciel. Et il y a deux aspects, l'aspect du jugement et l'aspect de la purification. Or, le message du premier ange nous parle du jugement qui est venu. Okay? Donc, de ce fait, rejeter l'une des deux faces, l'une des deux aspects, revient à rejeter le message du premier ange. Donc, si je rejette le message du jugement, je rejette de manière assez claire le message du premier ange. Mais si je rejette aussi l'autre aspect qui va avec, la purification, je rejette également aussi le message du premier ange. Vous m'avez suivi? OK. Alors, considérons la compréhension que ceux qui n'ont pas été concernés par le message du deuxième ange ont développer, que Dieu a conduit à développer concernant le sanctuaire. Dans le point numéro 2 de leur croyance fondamentale, il déclare qu'il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, qui, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, eh bien, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance. Et leurs péchés seront alors effacés, acte 3, 19, et emportés du sanctuaire. Ici, nous voyons qu'il y a, lorsque Christ, d'accord, rentre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, ok, eh bien, qu'il fait une grande expiation, d'accord? Donc là, on nous parle qu'il y a une expiation. Ces pionniers croyaient qu'il y avait une expiation qui était faite, ok? Et la messagère Ellen White nous déclara la chose suivante dans l'ouvrage « La tragédie des siècles », la page 530, paragraphe 3. « Le peuple de Dieu devrait comprendre comment ?» Parfaitement. Parfaitement, le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Mes amis, nous devons exercer la foi. La foi qui convient pour notre temps, d'accord? Et comme nous l'avons vu dans la présentation du pasteur Allen ce matin, présentation qui nous a fait sonder notre cœur, ok? Nous avons véritablement besoin d'avoir Christ en nous. Mais comment pouvons-nous avoir cette foi, mes amis, si nous n'avons pas une connaissance qui nous apporte cette foi, un message qui nous conduit dans une telle expérience? Mais, que voyons-nous là? Eh bien, il semble que le principe de l'évolution ait aussi été adopté dans le mouvement adventiste. En effet, car dans les croyances fondamentales modernes, le point numéro 24, eh bien, remarquons le changement. Il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Ici, le terme expiation a disparu. Il a disparu. Ok? Et c'est juste qu'il nous est dit que il accomplit un ministère en notre faveur. Mais on explique ce que cela signifie, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Là, je peux vous dire quelque chose. Et vous pouvez dire que j'interprète ce qu'ils disent là. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais vous laisser quelqu'un qui est à l'origine de cela vous expliquer ce que cela veut dire. Alors, considérons la chose suivante. Lorsque Walter Martin, qui était un représentant, qui était un responsable évangélique, eh bien, lorsqu'on lui posa la question suivante, étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Et à ce propos, Lira Froome répondit, « Les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. » Et, voyez-vous, Froome ne s'est pas arrêté à dire cela. En effet, ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement, d'après nos besoins et nos requêtes. Mes amis, c'est exactement ce que à quelques mots près que nous lisons dans le point numéro 24 des croyances fondamentales de la dénomination à l'heure actuelle. Ce que nous avons marqué dans le point numéro 24 des croyances de la dénomination à l'heure actuelle, c'est ce qui a marqué dans Question on Doctrine, mes amis. D'accord? Est-ce que vous voyez qu'effectivement, il y a eu une évolution? Il y a eu une évolution, mes amis. Un changement. Une suppression. Une suppression. Et cela est en fait un rejet, mes amis. Cela est un rejet de l'œuvre du Christ dans le sanctuaire. Car on ne croit plus en l'expiation finale. Vous vous rendez compte? Dans le type, le jour s'appelle le jour des expiations. OK? Comment pouvons-nous arriver à la conclusion que, eh bien, dans l'antitype, en fait, il n'y a pas d'expiation qui est faite. C'est comme si que je vous dis que, vous voyez cet arrière-plan? Il est rouge. Il est rouge. OK? Je vous dis qu'il est rouge. Il est rouge. Et je vous le dis tout le temps, pendant des années. Et après, je vous pose la question, de quelle couleur est-il? Vous me dites, ah, il est rouge. Mais c'est vert. Mais on vous a appris que c'est rouge, mes amis. Le jour s'appelle le jour des expiations. Mais il y a des gens qui l'appellent comme ça et qui disent, ah, mais il n'y a pas d'expiation. Pourtant, il s'appelle le jour des expiations. Mais dans l'antitype, aujourd'hui, dans l'adventisme, eh bien, on ne croit plus qu'il y a d'expiation. Ellen White déclara, dans la tragédie des siècles, à la page 413, paragraphe 1, « Babylone est appelée la mère des impudiques. Ses filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ses doctrines et à ses traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. » Arrêtons-nous ici un instant. Arrêtons-nous ici un instant. Elle parle, à son époque, des églises protestantes. D'accord? Et remarquez ce qu'elle dit ici, lorsqu'elle applique le message du deuxième ange. Elle dit, la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Et elle nous fait comprendre qu'elle s'attache aux doctrines de la mère et à ses traditions, et qui, comme elle sacrifie la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Mes amis, je dois vous dire que ce que nous venons de lire là et ce que nous nous apprêtons à lire ne s'applique pas simplement aux églises protestantes autour de l'adventisme officiel aujourd'hui. Non. Cela s'applique à la dénomination actuelle aujourd'hui aussi. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël, le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Tu t'es confié en ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Ézéchiel 16, versets 14 et 15. J'aimerais, après avoir dit cela, que nous puissions maintenant mettre le doigt sur quelque chose. Pourquoi Babylone est-elle tombée d'après le deuxième ange? Pour quelle raison? C'est pas là, me regardez ne vous servira de rien. Prenons le verset 8 et relisons. Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Notez bien cela. Mettez un post-it ici. OK? Je repose la question. Babylone, pourquoi est-elle tombée d'après le deuxième ange? Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. OK. Mettez un post-it ici, mettez un doigt ici et allons en Apocalypse 18. Et maintenant, remarquons la raison pour laquelle Babylone en Apocalypse 18 est tombée. Quelqu'un a dit la même chose? OK. OK. car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Mes amis, cela n'est pas la même chose. Cela n'est pas la même chose. Reconsidérons la chose. Babylone, d'après le deuxième ange, est tombée car elle a abreuvé, c'est-à-dire qu'elle a donné à boire. Mais sous le message du quatrième ange, Babylone est tombée car toutes les nations ont bu. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Il y a une évolution à ce niveau. Vous savez, en ville, il y a des bars. Il y a des bars. Et ces bars qui sont en ville, eh bien, à travers cela, les tenanciers de ces bars sont en train d'abreuver la ville. Ils fournissent un breuvage. Mais ça ne veut pas dire que toute la ville du tampon va s'abreuver dans ces bars. OK? Parce que je sais que Raymond ne va pas dans ses bars. OK? Je sais que Isabelle ne va pas dans ses bars. Mais, il y a des bars qui servent à boire. Qui servent à boire. Est-ce que vous pouvez arriver à comprendre ici la différence? C'est que arrivé sous le message du quatrième ange, mes amis, là, toutes les nations ont bu. Toutes les nations ont bu. Ça veut dire que toute la ville est allée. Toute la ville est allée, mes amis. Je vous pose une question. Si on se saisit de cette maison, si on se saisit de la maison sous laquelle nous sommes, et on se saisit d'elle, on s'empare d'elle par la force, mais qu'on laisse les habitants de cette maison dedans, OK? Et qu'on transforme cette maison en bar. On la transforme en bar où on sert de l'alcool à boire. Mes amis, je pense que les habitants de cette maison devraient partir le plus rapidement que possible. Ils devraient partir le plus rapidement que possible. Car à ce moment-là, cette maison devient un bar qui abreuve la ville. Elle n'a pas encore besoin d'être suffisamment connue. Elle n'a même pas besoin d'être fréquentée par toute la ville. Il faut déjà la quitter. Et ça, c'est ce que les croyants en 1844 ont fait. Leur église était devenue des bars spirituels où on servait des fausses doctrines. Et toutes les nations n'avaient pas encore bu. Mais ils sont sortis. Car vous n'avez rien à faire dans une maison qui est un bar. Et donc, à plus forte raison, lorsque toutes les nations viennent s'abreuver, mes amis, que vous devez quitter. Donc, c'est pour nous dire que lorsque nous pensons à l'apostasie qui a lieu dans l'adventisme aujourd'hui. Et que nous disons, ah, oui, mais l'Église n'a pas encore atteint un degré d'apostasie. Elle n'est pas encore arrivée à un niveau de déchéance tel qu'il nous faut quitter. Mes amis, au début du 19e siècle, comme on l'a dit avec le pasteur Allen, vous pouviez être méthodiste et porter une alliance. Et pourtant, ces églises observaient le dimanche. Elles avaient une mauvaise compréhension quant à la non-immortalité de l'âme. Et pourtant, Dieu a déclaré qu'elles sont tombées parce qu'elles ont rejeté un message descendant du ciel. Mes amis, je vous pose une question. Aujourd'hui, avons-nous moins de lumière que les méthodistes en 1844? Non, nous avons beaucoup plus de lumière, mes amis. Beaucoup plus de lumière. Donc, est-ce que nous pensons que Dieu va agir de manière différente, qu'en 1844? Je ne pense pas, mes amis. Je ne pense pas. Nous n'avons pas à attendre, mes amis. Nous n'avons pas à attendre que toutes les nations, que tous les pays, ok, aient bu du vin de la dénomination, mes amis. Du moment qu'elle s'est transformée en bar spirituel, il n'y a plus rien à faire dedans, mes amis. Car c'est un bar. Et du moment que votre maison se transforme en bar et qu'on vous l'a pris par la force et que ce n'est plus en réalité votre maison, sortez de là. Sortez de là, mes amis. Du moment qu'elle abreuve, n'attendez pas que toutes les nations aient bu. Du simple moment qu'elle abreuve, sortez de là. Et là maintenant, mes amis, le texte nous dit que toutes les nations ont bu. Toutes les nations ont bu. L'apostasie est généralisée, mes amis. C'est pour cela que, voyez-vous, nous devons, eh bien, être fidèles à Dieu. Et comme les Hébreux ne pas accepter le vin du roi. On ne peut pas accepter, mes amis. On ne peut pas. Il nous faut n'avoir aucune part avec le breuvage de Babylone. Et donc, puisse Dieu nous accorder cette compréhension. Puissons-nous comprendre cela, mes amis, et ne faire aucun compromis. Car bien souvent, on pense qu'il y a des raisons bien fondées à être associées. Mes amis, quel bien fondé qu'il y a. Vous savez, lorsque j'ai spécifié que je ne ferai plus partie de la dénomination adventiste, j'ai eu en face de moi des personnes qui m'ont exposé les bienfaits de la FPF, d'avoir adhéré à la FPF. OK? Et au passage, l'Église adventiste en Haïti, en Haïti, pays dans lequel je me rendrai avec Pasteur Alan Stump après ce meeting, l'Église adventiste en Haïti est rentrée dans la fédération protestante. D'accord? C'est quelque chose qui se passe au niveau mondial, mes amis. Tout ça parce que, au préalable, le BEM a été signé. OK? Dans les années 90. Et donc, on m'a vanté les mérites d'avoir adhéré à la FPF. Et on m'a dit que, si nous n'avions pas fait ça, nos églises auraient fermé. Et donc, c'est pour la sauvegarde de l'Église que cela a été fait. Mais écoutez, qu'est-ce qu'a fait Josaphat? Pourquoi n'avons-nous pas fait comme Josaphat? C'est-à-dire, pourquoi n'avons-nous pas convoqué un jeûne et une prière pour que, eh bien, ces choses-là soient empêchées? On n'a pas su me répondre, mes amis. On n'a pas su me répondre. Mais ce n'était pas possible pour eux de faire un jeûne et une prière. Puisque au préalable, on avait déjà accepté des enseignements qui enlevaient la barrière qui nous séparait d'avec ces églises. Les jeux étaient déjà faits, mes amis. Les jeux étaient déjà faits. Mes amis, du moment que une église devient un bar et qu'elle sert et qu'elle se met à dispenser de faux enseignements, il n'y a, dès ce moment-là, mes amis, il nous faut être dehors. Il ne faut pas attendre que la corruption s'intensifie, mes amis. Il ne faut pas attendre. Car, en agissant de la sorte, nous ne pourrons pas avoir la conscience pure. Nous aurons une conscience souillée du fait que la connaissance de Dieu et de Jésus aura été rejeté. Combien d'entre nous souhaitent faire partie des 144 000? Combien d'entre nous souhaitent faire partie des 144 000? Personne? Je pense qu'on n'avait pas compris ma question. Je répète, combien d'entre nous souhaitent faire partie des 144 000? Amen. Mes amis, nous avons besoin d'avoir une conscience pure. Et pour cela, nous devons nous préserver des influences corruptrices, de toute influence corruptrice, et accepter le message du quatrième ange de sortir. La sortie de Babylone était valable depuis 1844, parce que du moment qu'il y a une corruption morale, il faut sortir, mes amis. Du moment que la corruption morale est là, établie, il nous faut sortir. Comme Abraham, sortir et marcher par la foi. Et c'est là que sont ceux qui ont la foi. Et nous allons considérer cela plus en profondeur dans cet aspect de marcher par la foi et de sortir comme Abraham cet après-midi lorsque nous allons considérer l'Église du Christ. Mais pour l'heure, que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde de pouvoir marcher dans ses voies et de comprendre que nous avons à lui obéir. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.